des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Cette semaine, un dialogue entre deux auteurs dont les livres rayonnent en cette rentrée. Adeline Dieudonné, qui publie La Vraie Vie, premier roman chez l'Iconoclaste. Bonjour Adeline Dieudonné.
Bonjour.
Et Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux, c'est chez Actes Sud. C'est votre deuxième livre, troisième. Hein. Il y a eu aussi une publication. Bonjour d'abord Nicolas Mathieu.
Bonjour. C'est le deuxième roman en tout cas.
Voilà, deuxième roman, ouais, exactement. Ouais. Avant un polar, avant, juste avant, c'était un polar.
C'était un roman noir, voilà, ouais, qui était paru chez Actes Noir.
On va en parler aussi. Soyez les bienvenus tous les deux dans le temps des écrivains. On vous a réunis parce que vos deux romans font entendre deux voix singulières dans un paysage connu, très arpenté d'ailleurs. C'est celui de la jeunesse, arpenté par les écrivains. Comment on devient un adulte, comment on quitte l'enfance. Là où est l'enfance et l'âge d'or, disait Novalis. C'est pas vraiment le cas dans vos romans. Un thème, je disais, sillonné, sarclé par d'autres écrivains, mais qui ne vous a pas effrayé l'un et l'autre. Alors chez vous, Adeline Dieudonné, on est dans un lotissement constitué de pavillons gris, alignés comme des pierres tombales, écrivez-vous. L'héroïne est une petite fille qui n'a pas de nom, vous ne vouliez pas lui en donner, vous nous direz peut-être pourquoi. À la maison, ils sont quatre, il y a deux enfants, donc elle et puis son petit frère, Gilles, la mère que vous décrivez ressemblant à une amibe, et le père, une sorte de géant à la carrure d'écarisseur qui a des mains qui auraient pu décapiter un poussin comme on décapsule une bouteille de coca et qui fait régner, là je vous citais, hein, et qui fait régner la terreur dans la maison. Maison qui se caractérise aussi par la présence d'une chambre dite des cadavres où le père entrepose ses trophées, des animaux empaillés. Cette fillette, elle adore son frère et d'ailleurs elle lui témoigne une tendresse non pas seulement de sœur mais une tendresse de mère. Un jour, la fillette et son frère assistent à un drame. Alors ça non plus, je sais pas si vous voulez en parler. C'est au tout début, je sais pas si on dévoile la chose.
Moi j'aime bien qu'on le dévoile pas, ouais. Parce qu'en plus je pense que c'est pas nécessaire juste dire qu'il se passe un drame qui traumatise les enfants la première année, je crois que c'est suffisant.
C'est un drame, enfin comique dans l'horreur presque.
Oui, oui, c'est très particulier, pourtant ça arrive plus souvent qu'on ne croit. Et...
Ah oui.
Ah oui, oui, oui. Bon, alors je vais peut-être dévoiler un peu.
Non, mais pas trop. Disons qu'il est, il est question d'un marchand de glace.
Hein, il est question d'un marchand de glace.
Et ça arrive souvent.
Oui, que les siphons explosent, ça arrive, oui.
Ah, très bien. Voilà. On en a dit déjà beaucoup trop. Non, pas beaucoup trop. C'est vraiment au début, on ne gâche rien. Gilles, donc le petit frère, est traumatisé. Il se renferme, il se réfugie auprès d'un des animaux empaillés, une hyène, dans cette chambre des cadavres. Je vous cite à nouveau Adeline Dieudonné, il ne ressentait presque plus rien, sa machine à fabriquer les émotions était cassée. Puis, cette sœur, donc qui n'a pas de prénom, va tout faire pour redonner le sourire, faire redémarrer cette machine à émotions. Et il sera peut-être question de remonter dans le temps, clin d'œil à la pop culture et à la DeLorean du film Retour vers le futur de Zemeckis. Alors, elle n'a pas de nom, votre héroïne, mais on va la suivre sur 6 étés, donc de l'enfance à l'adolescence. Le corps aussi change, le sexe aura son importance, comme chez vous d'ailleurs, Nicolas Mathieu. La première question, c'est ce titre, La Vraie Vie. Le titre, c'est parfois la meilleure porte d'entrée pour un roman, en plus c'est votre premier roman. La Vraie Vie, sous-entendu, il y en aurait une fausse. Alors, c'est quoi La Vraie Vie, sachant que c'est une phrase qui est adressée par la jeune narratrice à son petit frère Gilles. C'est elle qui lui dit qu'il y a La Vraie Vie, quoi.
Oui, et c'est comme ça que le roman a trouvé son titre. C'est début du roman, la petite fille explique à son petit frère qui a peur. C'est le soir, ils sont dans leur chambre et on lui a raconté une histoire de dragon au petit et il a peur. Et la petite fille lui dit, les histoires, elles servent à mettre dedans tout ce qui nous fait peur. Comme ça, on est sûr que ça n'arrive pas dans la vraie vie.
Et c'est comme ça que vous voyez l'écriture de romans aussi, en tant que romancière, de mettre tout ce qui vous fait peur dans les histoires pour pas que ça arrive?
Alors, de mettre tout ce qui me fait peur dans les histoires, oui. Pour pas que ça arrive, non. Malheureusement, j'ai plus cette innocence-là d'imaginer que parce que je les écris, ça n'arrivera pas dans la vraie vie.
J'y crois encore. Il faut y croire.
Non, par contre, que le fait d'écrire de belles histoires ou d'écrire ce qu'on souhaite fasse, que ça va se réaliser dans le futur, ça j'en suis assez persuadée, oui, qu'il faut raconter les belles histoires et comment ça pourrait bien se terminer.
Alors je précise que votre roman a reçu le prix FNAC 2018, il est dans plusieurs listes de grands prix de la rentrée littéraire, et vous êtes par ailleurs en course pour le prix Goncourt des lycéens, avec une sorte de partenaire qui est Nicolas Mathieu, qui publie donc Leurs enfants après eux chez Actes Sud. Je précise que vous êtes vous aussi en lice pour le prix du roman des étudiants France Culture Télérama, et vous en avez déjà reçu un, c'est le prix Blue Jean-Marc Roberts, l'éditeur, l'écrivain Jean-Marc Roberts, vous l'avez connu ?
Non, j'ai jamais eu cette chance, mais lors de la remise de ce prix, j'ai cru comprendre qu'il avait laissé un souvenir très très vif chez Stock et en général dans le milieu littéraire.
Ah oui, oui, oui. Et puis chez ses lecteurs aussi, oui, homme d'esprit, très drôle, très... Jean-Marc Roberts, voilà une petite pensée pour lui. Alors chez vous, Nicolas Mathieu, on est aussi dans la jeunesse, dans l'adolescence, du côté de l'est de la France, dans une vallée déshéritée, comme chez vous d'ailleurs Adeline Dieudonné, puisque ça se passe dans une barre d'immeubles, on ne sait pas vraiment où on est, dans quel pays, c'est pas la Belgique, peut-être votre pays.
Je ne l'ai pas situé, oui.
Vous le situez, mais alors vous jouez un petit peu avec les mots, puisque on est à Ayanges. On sait qu'on est dans l'est de la France, qu'il y a des hauts fourneaux qui ne sont plus des hauts fourneaux, qui sont éteints. Moi, j'ai pensé à cette vallée de la Fensch, en fait, qui était la vallée dite des hommes de fer, en fait, ces hommes de la sidérurgie. Et puis Ayanges, ça m'a fait penser à Ayanges, ville dont on avait beaucoup parlé à propos d'une très polémique fête du cochon. Pourquoi vous avez changé le nom alors que c'est par ailleurs très très reconnaissable ?
Pour avoir les coudées franches, en fait, le bouquin décrit quand même la fin d'un monde, le monde de l'industrie, et ce sont des faits réels, ça s'est produit, mais selon une chronologie qui n'est pas exactement la mienne. Alors pour être libre là-dessus, j'ai changé les noms, un peu comme Faulkner avait fait avec sa vallée, on savait exactement où c'était, mais en même temps, il pouvait y faire ce qu'il voulait.
Alors le héros de Leurs enfants après eux à 14 ans, il s'appelle Anthony, il a une drôle de visage, un peu une gueule cassée. Il grandit lui aussi avec un père violent et une mère usée, qui a été belle, qui a eu des rêves aussi, mais qui n'ont jamais pu prendre corde. C'est une sorte d'amibe, elle aussi ? Je reprends le mot d'Adeline Dieudonné.
Non, je crois pas. Ce serait plutôt une mère pélican. Vous savez, les mères pélicans, elles gardent leurs petits dans leur bec pour les protéger de tout. Et Anthony, il a aussi à se défaire de cette emprise-là et de cette protection-là.
Il y a le père pélican aussi, dans le très beau poème, qui s'ouvre finalement le cœur pour que ses petits puissent le lui manger, ouais, voilà, et ne pas mourir de faim. Je vous cite Nicolas Mathieu. Les siens, ils les trouvaient finalement bien petits par leur taille, leur situation, leurs espoirs, leur malheur même, répandus et conjoncturels. Chez eux, on était licenciés, divorcés, cocus ou cancéreux. Écrivez-vous en précisant que, évidemment, le pastis parfois fait remonter toutes ces douleurs et ça explose. Donc je disais, chez eux, ben justement, c'est Ayanges, presque comme Ayanges. On va croiser un autre ado qui s'appelle Hassine, qui a 17 ans, qui est dealer, teigneux, et puis il y a la fille des beaux quartiers, Steph Chaussois. Et quand Anthony la regarde, il souffrait, c'était bon. Et c'est drôle parce que, comme chez Adeline Dieudonné, vous suivez vos personnages. Elle, c'était vous, pardon Adeline, c'était sur 6 étés. Vous les suivez sur 4. Et on va les voir grandir, aussi devenir adultes dans cet univers sinistré, mais où la vie, quand même, va gagner. Une question aussi sur ce titre, Leurs enfants après eux. Alors, ça vient d'une citation que vous mettez à l'orée de ce livre, une citation du Siracide, qui est l'un des livres sapientiaux de l'Ancien Testament. Mais ça sonne un peu comme une malédiction, quoi. Comme s'il s'agissait d'un cycle qui allait se répéter sans arrêt.
Oui, alors il est beaucoup de questions de ça dans le bouquin. C'est le retour du même, un peu comme vous savez dans cette chanson de Springsteen, The River, où toute une vie se passe comme ça et ils reviennent inlassablement à la rivière. Le bouquin se passe comme ça dans un sentiment de fatalité. Ce sont des personnages qui sont pris entre un héritage dont ils veulent pas et puis des structures qui les poussent à reproduire la vie de leurs parents. Et là-dedans, ils vont essayer de jouer leur part de liberté à fond, pied au plancher, quoi.
C'est anti-Bourdieu, en fait, finalement, faire mentir Bourdieu et la reproduction sociale.
Alors, en tout cas, je ne sais pas si c'est le faire mentir, mais eux ne l'ont pas lu et ils ont bien l'intention.
Non, mais je demandais au romancier. Je demandais au romancier dans son intention.
Non, c'est pas anti-Bourdieu du tout. Moi, je l'ai lu et ça infuse beaucoup ce que je pense. Après, quand on écrit un roman, on fait vivre des personnages. Et à partir de ce moment-là, il se passe des choses qui nous échappent et on ne peut pas les condamner à reproduire la vie de leurs parents. Ils vont tenter leur chance et je les ai suivis dans leur tentative.
Mmh. Alors je le disais, quand vous avez réuni, on trouvait ça intéressant parce que vos romans donnent la part belle au temps long pour parler peut-être du moment le plus court et le plus intéressant dans une vie humaine, c'est-à-dire celui où l'on quitte l'enfance pour devenir alors un adolescent, un presque adulte. Le corps change, l'âme aussi, les attentes aussi. C'est l'un des sujets les plus importants en littérature, c'est la matrice de plusieurs contes, de plusieurs romans dits de formation. Très arpenté en littérature, je pense à l'enfant de Jules Vallès, l'adolescente Dostoïevski, en passant évidemment par David Copperfield de Dickens, il y en a plein évidemment. Je vais savoir si l'un comme l'autre, vous aviez eu des modèles en vous lançant dans ces histoires de jeunesse qui sont aussi des romans d'apprentissage. Adeline Dieudonné.
Non, moi j'ai pas eu de modèle par rapport au roman d'apprentissage en tant que tel. Je me suis lancée dans cette histoire sans savoir que j'allais écrire un roman d'apprentissage. J'avais juste la voix de cette gamine et je me suis dit, bah, je vais voir où elle va me mener. Maintenant, j'ai évidemment des écrivains qui m'influencent. Enfin, pas que des écrivains, d'ailleurs, il y a le cinéma, il y a tous les arts m'influencent. Non, si je dois en citer deux, ce serait Stephen King, évidemment, on en parle beaucoup. Et Thomas Gunzig, qui est
un compatriote,
dont j'aime beaucoup l'écriture, qui a aussi cette férocité, cet humour noir grinçant que j'aime énormément.
Ouais. Et Stephen King, alors l'œuvre est vaste, mais c'est vrai qu'il a travaillé sur cette phase adolescente à merveille. Il l'a travaillé, il l'a avec toute sa perversité et son talent.
Oui, et alors ce qui est étonnant chez Stephen King, c'est qu'il arrive à faire parler les adolescentes. Quand on voit un roman comme Carrie, où il prend la voix d'une gamine, moi, qui m'a énormément plu et que j'ai relu au moment d'écrire La vraie vie, c'est La petite fille qui aimait Tom Gordon. Et pareil, c'est l'histoire d'une gamine de 10 ans qui se perd dans la forêt. Il sait faire parler les femmes, les jeunes femmes, les adolescentes. Il doit y avoir une histoire de vie antérieure, je sais pas, il a dû être une adolescente. Non,
ou il a observé peut-être ses proches.
Oui, mais il est particulièrement doué là-dedans.
Et vous, Nicolas Mathieu, justement, de choisir aussi des enfants, au départ. Ils sont un peu plus vieux que des enfants, mais ils sont encore assez enfants,
ouais,
14 ans.
Le point de départ, je pourrais parler de livres, hein, vraiment, peut-être Mark Twain, Huckleberry Finn, Tom Sawyer, des choses comme ça, ou Les marécages de Lansdale. Mais je me souviens d'une image vraiment frappante dans Mud, de Jeff Nichols, où on voit les enfants qui sont sur une embarcation au début, sur le Mississippi, le soleil qui se lève sur leur visage. Je me suis dit, mais c'est ça l'histoire que je veux raconter. C'est ces moments-là de l'enfance qui finit et du soleil qui se lève. Voilà. Et le bouquin commence, il regarde le lac et il y a une espèce d'écho comme ça. Et puis, il y a quand même l'éducation sentimentale, c'est-à-dire un long roman d'apprentissage où on va très loin dans le détail des individus, de la psychologie, des parcours sociaux. Et puis en même temps, il y a des moments à fresque, c'est-à-dire qu'on voit tout d'un coup, de l'histoire qui arrive. Et dans le bouquin, il y a des moments comme ça, une Coupe du Monde 1998.
Oui, de réconciliation nationale.
Voilà. Alors, j'avais envie de faire de jouer avec la focale, d'aller très dans le détail et puis par moments d'élargir vraiment le plus large possible et qu'on voit toute la vallée.
Est-ce que vous pourriez aussi m'expliquer, parce que c'est toujours là aussi, on parlait de moments, il y a un moment dans le moment en fait, un moment dans cette jeunesse, vous avez choisi tous les deux l'été. Je sais pas si c'est la saison qui colle le plus à... On pense au printemps, plutôt quand on évoque la jeunesse qui se transforme. Je vais pas parler de bourgeonnement du corps, mais en quoi c'était important de situer cette histoire, enfin de mettre l'accent, même si c'est pas toute l'histoire, mais mettre l'accent sur cette saison-là, Aline Dieudonné.
Moi, c'était pour une raison assez simple, c'est que j'avais pas du tout envie de m'attarder sur la scolarité.
Votre très bonne réponse.
De m'attarder sur l'école. Je voulais rester à cet endroit-là, dans le démo, là où ils vivent, avec cette famille.
Oui, le démo, qui est le lieu de ce lotissement.
Qui est le lotissement. Et voilà, je voulais explorer la forêt, la case de voiture, les endroits où ces enfants jouent. Et puis, c'était un plaisir très égoïste, c'est que j'aime énormément l'été et que j'avais beaucoup plus envie de faire voyager mon lecteur dans cette saison-là que j'aime. Et puis peut-être aussi pour mettre en contraste la lumière et la beauté de cette saison avec la noirceur de ce qui peut se passer pour ma petite fille.
Il y a aussi, évidemment, quand on pense à l'été, vous citiez Tom Sawyer, Mark Twain. Évidemment, l'été permet de jouer sur la nature, en fait, et le contact des corps dans la nature, puisqu'évidemment, en hiver, c'est un petit peu plus difficile de célébrer aussi et de rendre compte de l'observation du corps de l'autre, du corps des filles notamment pour vos héros, Nicolas Mathieu.
Ouais, l'été, ça permettait deux choses. C'est-à-dire que ça fait circuler beaucoup plus facilement les affects entre les milieux sociaux, puisque les gens ne sont pas à l'école, ils se retrouvent au bord d'un lac, il y a des barbecues, il y a des teufs, il se passe des choses, quoi.
Arrêtez, vous nous donnez envie.
L'un des projets du bouquin, c'était quand même de parler de ce que c'est que le désir à l'adolescence. Ouais. Qui est quand même un moment particulièrement intense. Et je trouvais que c'était plus facile si les gens étaient en maillot de bain qu'en doudoune, quoi. Donc le choix de l'été, il est celui-là. Et puis le climat devient un personnage aussi, c'est-à-dire qu'ils sont pris dans ces étés, comme ils sont pris dans cette vallée, comme ils sont pris dans cet héritage. Et comment ils font pour s'en dégager, quoi.
Alors vous vouliez parler de désir, allons-y. C'est vrai que la sexualité joue à plein dans vos deux livres, comme élément libérateur et comme un élément de conflit. Votre héroïne, Adeline Dieudonné, est aussi en chemin vers sa première fois et vers une sexualité qui lui ôtera quelques-unes de ses chaînes, et pas mal de ses chaînes. Nicolas Mathieu, je pensais à un passage où vous décrivez la jeune fille, on le lira peut-être tout à l'heure, regardée par les hommes et la jeune fille regardant les hommes. D'ailleurs, je peux le citer, hein, les lignes à peine tendues des jeunes filles les tourmentaient si fort, ça ce sont les amis des parents, mâles, et leur ventre plat, leur peau comme de la peinture automobile, eux qui avaient tout gagné pour se rendre compte que le commencement seul comptait. Et le commencement, c'est aussi le commencement sexuel. Comme si le corps, comme si ces métamorphoses, comme si ces désirs lestaient en fait d'une certaine gravité vos deux intrigues. De la seule chose en fait vraiment décisive, la seule chose qui puisse donner envie de partir, c'est la sexualité.
Oui.
Avec les arbres.
Oui, c'est ça. Avec la nature. Oui. Dans mon roman, il est pas mal question aussi de la bête, de notre animalité, dans ce qu'elle peut avoir de plus noir, de plus sordide, mais aussi de plus beau. Et je me suis pas mal replongée dans mes propres sensations d'adolescente. Et c'est vrai que si je dois revenir à cette période-là, et si je veux être tout à fait honnête, c'est sûr que le désir sexuel, l'éveil de ces sensations-là, a pris une place considérable. Oui. Donc je devais donner ça à ma petite. Et c'est vrai que ça libère, c'est vrai que c'est aussi un vecteur d'émancipation, je pense.
Même si c'est un peu raté.
Même si c'est un peu
raté. Parce que ça, c'est le
cas. C'est toujours un peu raté la première fois. Enfin, je sais pas, je parle pour moi, mais toujours un peu scabreux.
On parle de littérature, là, ou
de littérature, parce qu'on sent... Non, je parlais de vos livres, de vos textes, sans encore une fois trop dévoiler et rentrer dans le détail. Il y a toujours ce seuil comme un motif romanesque, alors évidemment qui était peut-être moins travaillé dans des siècles passés, puisqu'on parlait de romans de formation, où peut-être la pudeur empêchait certains romanciers de se déployer totalement dans cette direction-là. Mais vous y allez de façon extrêmement sensuelle, physique, crue, toutes les sensations sont là et décrites précisément. Et je disais, c'est un peu raté aussi, je pense, à plusieurs scènes, notamment la scène dans la voiture, Nicolas Mathieu, qui est interrompue justement par des fâcheux.
C'est ça. Je ne sais pas si c'est la sexualité qui est émancipatrice, mais c'est le mélange des deux, c'est-à-dire de l'amour et puis du désir. Il y a des choses là-dedans qui font passer des barrières qu'on passerait pas autrement, qui font aller chercher des ennuis, en fait. Mmh. Et après, pour le traitement de la sexualité dans la littérature...
Parce que c'est difficile à faire. Hein,
On se pose des questions en le faisant. Est-ce qu'on le fait à la Top Gun en contre-jour, ou est-ce qu'on y va plein cadre et puis on montre les choses et on y dit... Est-ce qu'il s'agit d'évoquer ce qui arrive au personnage, ou est-ce qu'il s'agit de faire ressentir des choses au lecteur? Il y a plein de questions qui se posent comme ça.
Comment vous les avez tranchées, vous?
Pendant tout le roman, la morale de ce roman, ce que j'ai voulu y mettre, c'est la restitution, rendre du réel. Donc pour la description du sexe aussi, j'ai essayé d'appeler un chat, et puis de susciter chez le lecteur des choses qui pouvaient se passer dans le corps des personnages.
Travaillant sur la matière, en travaillant...
Ouais. Exactement. Mmh. Et puis en essayant, dans la mesure du possible, vraiment l'ennemi pour les scènes de sexe, c'est le cliché, quoi. Là, il faut faire très attention de ne pas tomber dans le SAS, quoi.
Et vous, Adeline Dieudonné, justement, vous disiez, je me suis replongé un peu dans mes souvenirs. Il n'est pas question ici de votre biographie, évidemment. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas la plus, mais une des choses les plus difficiles à rendre, justement, là, pour pas tomber dans le cliché, trouver vraiment ou placer vraiment le curseur. Ça a été une scène compliquée à écrire, ou au contraire?
Non, elle est un peu venue toute seule parce que, j'ai libéré sa bête à elle. Et voilà, je me suis pas posé la question du cliché, des déjà-vus. Je me suis juste dit, tiens, comment est-ce que je peux exprimer le désir d'une jeune fille? Et comment elle l'assume complètement? Parce qu'elle devient complètement propriétaire de ce désir. Ce que j'ai peut-être fait ce que moi-même j'ai pas osé faire à cet âge-là, c'est-à-dire affirmer de façon extrêmement ferme ce désir-là. Et donc la scène, elle est née toute seule. J'espère avoir échappé au cliché.
Mais oui. Dernière question. Il s'agit de famille, justement. Et d'ailleurs, la sexualité se déploie contre ce cadre-là, qui est le cadre familial, assez déglingué dans les deux cas. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qui vous a poussé à choisir ce cadre familial, qui est avant tout pour vous dans vos livres un lieu d'enfermement et même un lieu de violence, un lieu de mort. Je pense toujours à la phrase de Proust, nous tenons de notre famille aussi bien les idées dont nous vivons que la maladie dont nous mourons, ou à nos valises, que j'ai cité tout à l'heure, où est l'enfance et l'âge d'or. C'est pas vraiment l'âge d'or, justement, pour vous, parce que justement il y a ce cadre familial compliqué. Pourquoi ce choix d'un cadre familial totalement déstructuré?
De nouveau, j'ai pas choisi, j'avoue que ça s'est imposé tout seul, mais peut-être que ça a rejoint mes questionnements du moment, c'est-à-dire que peut-être que cette famille, c'est la métaphore du monde dans lequel je vis, dans lequel on vit, et comment, selon moi, ça va très très mal, et comment est-ce que des enfants peuvent grandir là-dedans, peuvent espérer avoir un avenir, se libérer et évoluer. Quelles sont les ressources qu'ils vont pouvoir trouver pour se donner un avenir qui est loin d'être acquis?
C'est drôle, ça me fait penser, il y a en ce moment d'ailleurs le très beau film de Nadine Labaki, Capharnaüm, qui commence par un procès qu'intente un enfant à ses parents, qui va voir le juge et qui dit, voilà, ils m'ont mis au monde et je suis contre ça.
Ouais. Voilà. Ils auraient bien le droit. Voilà. Je m'attends à ce que mes filles fassent pareil.
Et chez vous, Nicolas Mathieu?
Alors c'est vrai que c'est des familles déglinguées, c'est vrai. Mais il me semble que la famille saine, équilibrée et heureuse est un mythe en fait. Ce qu'il y a, c'est des secrets de famille. Et on fait plus ou moins bonne figure en réalité. Et derrière la vitrine, il y a toujours des catastrophes, des névroses. La famille, c'est quand même une formidable usine à névrose avant tout. Donc celle-là, elle semble plus déglinguée que les autres parce qu'elle n'arrive pas à faire bonne figure et qu'elle est dans des circonstances particulièrement difficiles. Mais finalement, c'est une famille comme les autres, c'est-à-dire que il y a de l'amour, il y a de la volonté de pousser les gamins, ils se tiennent quand même.
Et à chaque fois chez vous, une mère qui est fanée et un père violent.
Ouais. Moi, c'est pas comme ça que je l'ai écrit, en tout cas. Ce qui m'a intéressé de voir, c'est qu'est-ce que c'est que le passage du temps sur les corps. Et chez la mère et chez le père, ils s'inscrivent de deux manières différentes. Lui, effectivement, il gère sa frustration comme ça et il est toujours au bord de l'explosion. Et puis elle vit dans la mélancolie d'avoir été très belle, quoi. Mais ce dont il est question, c'est moins de dysfonctionnement que de quels sont les outrages que nous fait le temps.
T'es d'accord avec ça, au bout des années?
Oui, ben moi j'ai...
On empaille chez vous pour que les animaux demeurent.
Pour qu'ils gardent leur forme initiale. Il doit y avoir quelque chose de ça. Et puis moi je crois que j'avais envie de parler du rapport de prédation. Et voilà, là le rapport de prédation, il s'inscrit aussi dans la famille, dans la façon dont cet homme gère sa famille. Sa femme et sa fille.
On va continuer avec vous, Adeline Dieudonné, justement, à parler de prédation et de dimension symbolique aussi de votre livre. D'abord, on écoute votre choix musical, Rammstein, Du Hast.
Le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Rammstein, Du Hast, c'est le choix musical d'Adeline Dieudonné qui publie son premier roman, La Vraie Vie, chez l'Iconoclaste. Alors pourquoi ce choix musical? On en parlait entre nous là pendant la pause. Vous écoutez Rammstein pour écrire?
Oui. J'écoute Rammstein, j'écoute plein d'autres choses, mais effectivement des musiques comme ça, bien féroces, qui vont un peu tabasser mon cerveau. Et ça m'aide énormément, c'est ce qui m'aide à trouver l'énergie que je pense on retrouve dans les mots au final. Ouais.
Et ça perturbe pas votre, j'allais dire, bon, c'est un petit peu votre musique intérieure, vos mots à vous, c'est pas deux musiques qui viennent entrer en s'entrechoquer, ou peut-être vous aimez ça d'ailleurs.
Non, ça ne s'entrechoque pas, c'est plutôt ça conditionne la musique de mes mots.
Du métal. Vous parliez de prédation, Adeline Dieudonné. La vraie vie raconte l'histoire d'une enfant qui n'a pas de nom, qui s'occupe de son petit frère. Lui, il en a un, il s'appelle Gilles. Ils vivent dans un lotissement, donc le démo dont on parlait, constitué de pavillons alignés comme des pierres tombales. C'est ainsi que vous le décrivez. Elle vit un drame en plein été avec ce petit frère, drame qui va faire basculer son petit frère dans une sorte de fermeture intérieure. Il se cadenasse véritablement lui-même et elle va essayer de faire redémarrer ce que vous appelez sa machine à fabriquer des émotions. Cette famille est très dysfonctionnelle, on en parlait justement juste avant Rammstein, puisque elle est composée d'une mère de famille qu'elle décrit, puisque c'était la première personne, comme une amibe, et un père extrêmement violent, qui a une carrure d'écarisseur, je vous cite encore, et qui fait régner la terreur dans la maison. Et ce que je voudrais dire, c'est que on suit ces personnages sur 6 étés, donc depuis l'enfance jusqu'à l'adolescence, et c'est pour ça que vous êtes réunis aussi avec Nicolas Mathieu, qui publie lui Leurs enfants après eux, qui s'intéresse aussi à cette période d'adolescence. Simplement, vous traitez ce passage, ce moment de passage, à travers une atmosphère qui s'éloigne du réalisme, même du réalisme social, pour s'approcher du conte, je trouve, avec cette chambre un peu maudite qui se trouve dans la maison et qui est consacrée aux animaux empaillés du père, notamment une hyène. Le père, il est violent, il travaille dans un parc d'attractions, donc tout ça perturbe totalement les lois enfantines. Il est question de baguettes magiques dont on aurait besoin, d'un chaudron, je vous cite Adeline Dieudonné, on est allé voir Monica, sous la peau de son cou quelque chose a tremblé en apprenant ce qui était arrivé au glacier, c'est le fameux drame, donc un glacier, un marchand de glace. Elle a regardé Gilles, j'espérais qu'elle ferait quelque chose pour lui, qu'elle sortirait un chaudron, une baguette magique ou un vieux grimoire, mais elle a juste caressé sa joue. C'est un conte, on a l'impression que c'est un conte, même si c'est un conte noir. En quoi pour vous était-il important d'ancrer ce premier roman dans cet univers-là? Je n'ai pas parlé de genre parce que vous le perturbez ce genre, mais le genre du conte.
Mais il s'est imposé tout seul à partir du moment où je raconte effectivement l'histoire à la première personne du singulier d'une gamine de 10 ans. Bah forcément, il y a quelque chose de l'imaginaire, de l'enfance qui vient dès le départ. Et puis c'est vrai que c'est peut-être une façon pour moi de prendre un petit peu de distance avec le réel. Et c'est ce qui m'intéresse quand on me raconte une histoire. J'aime bien que ce soit une histoire et qu'il y ait cette distance-là et que ce soit quelque chose de tout à fait original, que ce soit pas un documentaire.
Alors je voudrais qu'on vous entende lire un extrait. J'ai choisi en fait le passage. Alors c'est une sorte de chasse en fait. Dans un conte on dirait c'est une chasse. Sauf que le chasseur, comme dans Cendrillon, est une figure masculine. En l'occurrence c'est le père. Il y a un côté barbe bleue aussi. Et celle qui est chassée, eh bien c'est la fille. Alors on va lire en deux moments. D'abord le début de la chasse et puis le moment où votre héroïne court dans la forêt.
Les quatre garçons ont ricané. Le but n'est pas de lui faire du mal, c'est ma fille. Je voudrais la marier un jour quand même. Vous ne me l'abîmez pas. La mise à mort sera symbolisée par une petite mèche de cheveux. Le premier qui m'en ramène une a gagné. Pareil, pas la peine de lui amputer la moitié de la tignasse, une petite mèche suffira. J'ai protesté. Papa, non, je veux pas le faire. Sa mâchoire a fait son drôle de mouvement. Et j'ai compris pourquoi il avait eu ce regard quand j'avais descendu l'escalier une heure et demie plus tôt. Le sang de la hyène coulait dans ses veines, et mes supplications le ravissaient. Pour un peu, il se serait léché les babines. De sa voix basse, il a dit « Cours, tu as droit à 5 minutes d'avance. Papa, s'il te plaît, arrête. » Les larmes sont montées et les sanglots ont serré leurs tentacules autour de ma gorge. Mon père a déclenché le chrono de sa montre. Tu perds du temps. Je tendais l'oreille pour tenter de mesurer la position de mes poursuivants, mais seuls les bruits de la forêt me parvenaient. Un hibou chantait à quelques mètres de moi, à moins que ça ne soit une chouette. Le vent soufflait dans les branches. Un silence à la fois rassurant et inquiétant enveloppait la nuit.
j'évaluais la situation. Si je restais cachée là, sans bouger, je ne voyais pas comment ils allaient pouvoir me retrouver. Les ténèbres, aussi terrifiantes qu'elles puissent être, étaient mes meilleurs alliés. On ne pouvait ni m'entendre ni me voir, à moins de se tenir à moins de 2 mètres de l'arbre au pied duquel j'étais blottie. Mais là, une évidence m'a percutée avec la délicatesse d'un semi-remorque. À partir du moment où j'avais quitté le chemin de terre battue, j'avais couru tout droit. Il leur suffisait de suivre la direction que j'avais prise depuis l'endroit où ils m'avaient vu m'enfoncer entre les arbres, et elle les mènerait droit sur moi, au sommet de la côte.
Merci Adeline Dieudonné. La vraie vie, c'est chez l'Iconoclaste, c'est votre premier roman. Alors voilà, on ressent totalement ce qu'on se disait, c'est-à-dire ce genre du conte. Ce qui est intéressant, c'est que les arbres à travers lesquels elle court, cette forêt, vont jouer un rôle dans l'initiation amoureuse, quelques pages plus loin, dont on parlait tout à l'heure. On a l'impression que la dimension symbolique a été particulièrement travaillée dans ce texte. Il y a l'arbre, le père qui est une figure ogresque, hein, c'est l'ogre, la hyène aussi, donc qui remplace peut-être le loup des contes. La littérature est faite pour vous, en tout cas dans ce roman, pour travailler justement avec ces symboles, comme des petits cailloux presque, du petit pousset.
Oui, vous posez la question comme si c'était quelque chose que j'avais prémédité, comme si ça avait fait partie d'un plan précis. Malheureusement, je ne peux pas affirmer ça. Je crois que la dimension symbolique vient peut-être justement du fait que je laissais parler mon inconscient de façon extrêmement libre. Le métal, Rammstein, je pense, contribue
à libérer l'inconscient.
Voilà,
ouais.
Contribue complètement à ça. Et que c'est vrai qu'une fois qu'on libère l'inconscient, il envoie plein de signaux et lui-même va mettre plein de symboles.
Alors, vous nous avez dit depuis le début de cette émission qu'il n'y avait pas de plan, qu'au fond, vous ne saviez pas ce que vous aviez écrit. Je veux dire que tout était... j'ai parlé de baguette magique tout à l'heure. Bon, on peut considérer que c'est une forme de magie. Les Grecs anciens parlaient d'enthousiasme, hein, les dieux qui rentrent en vous, qui vous font écrire. Concrètement, je veux dire, comment ça s'est passé? Parce que vous avez quand même choisi de raconter l'histoire de cette jeune fille. Quelle a été la méthode? Parce que je crois que vous avez fait beaucoup de théâtre et beaucoup d'improvisation. Alors, est-ce que c'est cette méthode-là qui s'est appliquée à l'écriture du premier roman?
Oui, complètement. Et justement, l'impro, moi j'ai fait de l'improvisation théâtrale qui n'est pas... Enfin, j'ai fait du match d'impro aussi. Mais l'improvisation théâtrale, c'est tout à fait une autre technique. C'est-à-dire qu'on improvise une histoire d'une heure et quart. Alors que dans le match, c'est des histoires très courtes. Et donc, quand on improvise une histoire d'une heure et quart, il faut surtout pas réfléchir. Surtout que là, on a des partenaires qui ne connaissent pas... personne connaît l'histoire à l'avance. Et c'est 1h15, on ne connaît ni le genre, ni donc on peut partir dans un vaudeville, on peut partir dans un thriller, tout est possible. Et ce qu'on nous apprend, c'est vraiment de laisser parler nos tripes et de surtout ne pas chercher à avoir une bonne idée. Ça, c'est mon pire ennemi, c'est quand j'essaie d'avoir une bonne idée. Alors ça, on peut être sûr que ça bloque complètement. Donc c'est se connecter à ses sensations et vraiment partir de toutes petites choses et laisser l'histoire se créer toute seule.
Et c'est comme ça que vous avez procédé pour
voilà.
Le livre.
Alors, j'avais juste en tête, c'est vrai que l'accident de la première année a surgi assez rapidement. Et à partir de là, il a suffi, entre gros guillemets, parce qu'évidemment, après, c'est un travail énorme. Et évidemment, j'ai douté. Et évidemment, je me suis perdue en chemin et ça a pris plein de détours. Mais j'ai laissé l'histoire se tricoter toute seule derrière. Après, sur la méthode... J'ai bossé tous les jours. Et puis, moi, il y a juste un petit truc qui m'aide, c'est le champ lexical. C'est-à-dire que je note des mots. Je lis beaucoup pendant que
j'écris. Le mot « hyène », par exemple. C'est vrai que ça revient. C'est véritablement le motif. Vous parliez de prédation, c'est le motif du livre.
C'est le motif du livre, ouais. Et moi, je lis énormément pendant que j'écris. Et donc, je vais piquer des mots. Donc, j'ai toujours mon carnet.
Dans lesquels, par exemple?
Je les ai plus en tête, mais...
On prend hyène, pourquoi en fait? Voilà, parce que c'est vrai, ces animaux ont pallié cette chambre.
Autour de la hyène, il y a le mot carnassier, il y a le mot cadavre, il y a le mot prédateur, voilà. Et c'est des mots qui me fascinent et c'est des mots dans lesquels j'ai envie de me plonger.
Alors précisément, dans un roman, il y a des mots qui sont plus importants que d'autres, notamment les noms. Et notamment les noms de femmes, d'héroïnes. Jane Eyre, Anna Karenine sont devenus des noms qui sont plus que des noms, enfin qui convoquent des univers. Vous avez choisi, alors même que les noms de lieux sont importants, l'étang des enfants noyés, le bois des petits pendus, vous avez choisi de ne pas donner de nom à cette héroïne que vous faites parler à la première personne. Alors je vais savoir pourquoi ce choix de dénonciation et pourquoi priver le lecteur de son nom.
Mais c'est un roman qui parle de quête identitaire. Et c'est un roman d'initiation, mais elle va vraiment devoir apprendre à savoir qui elle est. Et donc, à travers ça, peut-être que c'était intéressant que, justement, elle n'ait pas de nom. Après, il y a une raison tout à fait simple aussi, c'est que comme le roman est écrit à la première personne du singulier, on cite rarement son propre nom.
Non, mais dans les dialogues...
Dans les dialogues, voilà, effectivement, ça aurait pu. Et c'est vrai que dans la première version, il y avait une fois son nom qui était prononcé par sa maman. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, ben, alors tant qu'à faire... S'il n'apparaît qu'une seule fois, autant le retirer. Et c'est vrai que la maman n'a pas de prénom, le père n'a pas de prénom, on parle du champion, de la plume, mais c'est tous des personnages qui n'ont pas de nom.
Mais encore une fois, avec la dimension le champion, on a l'impression qu'on est dans le domaine du roman médiéval, le champion qui défend la dame. Enfin, elle rêve d'ailleurs de ça.
Oui, tout à fait. Mais donc, on est dans l'archétype, on est dans des personnages qui ont presque plus des fonctions que des personnalités propres.
C'est le théâtre qui donne ça, parce que c'est vrai que dans la dimension théâtrale, souvent, voilà, le père, la mère, on travaille là-dessus aussi, vraiment à l'économie. Les fonctions, parfois, remplacent les noms des personnages.
Ah oui, probablement que le théâtre a dû jouer dans la construction. Ouais.
Alors juste une petite question, puisqu'on parlait de prédation tout à l'heure, ce qui est très très important dans votre livre, c'est que parmi justement ces symboles ou ces fonctions, il y a la mère, et d'ailleurs c'est plutôt la fille qui joue le rôle de mère par rapport à son petit frère Gilles. Je vous cite, « Je ne sais pas si elle existait avant de le rencontrer », c'est donc là votre narratrice qui parle de sa mère et le rencontrer, c'est son père. « J'imagine que oui, elle devait ressembler à une forme de vie primitive, unicellulaire, vaguement translucide, une amibe, un ectoplasme, un endoplasme, un noyau et une vacuole digestive. » Et curieusement, c'est en opposition avec cette amibe que votre personnage se construit comme un être de chair. Une chair qui fait peur aux autres, qui dégoûte les hommes. Mais je voyais bien que le regard des autres changeait en même temps que mes formes. Surtout celui de mon père. J'étais passé du statut de petite chose sans intérêt à celui de petite chose repoussante. J'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Parfois, je surprenais le regard de Gilles sur le relief de mes seins, sous mon t-shirt, et j'y voyais presque du reproche. J'avais la sensation de devenir une créature répugnante. Et ce qui est fou, c'est que de ce constat physique, l'héroïne finalement fait un constat social. J'acceptais comme une évidence qu'un garçon valait plus qu'une fille et qu'il y avait des domaines auxquels je n'avais pas accès. Aux yeux de son père, elle doit devenir comme la mère, c'est-à-dire une proie. Est-ce que La vraie vie, c'est aussi un roman sur le pouvoir que les femmes ont à conquérir et qui résonne totalement avec l'époque?
Évidemment, évidemment. Et c'est vrai que ça parle de déterminisme de sexe, clairement. Et de comment on l'accepte quand on n'en est pas consciente. C'est-à-dire que c'est une prise de conscience que moi j'ai fait relativement tard. Il a fallu l'affaire Weinstein, hashtag MeToo, balance ton porc, aussi pour comprendre ces choses-là que quand on ne nous les explique pas, c'est vrai qu'on accepte comme une évidence. Que...
Balance ton père, chez vous, c'est presque ça, enfin, pour l'héroïne.
Oui, c'est vraiment ça. Ouais. Mais on accepte comme une évidence des choses qui sont inacceptables. Et elle est là-dedans. Et au fur et à mesure, elle va prendre conscience... Enfin, elle en prend même pas conscience,
par le corps.
Mais instinctivement, voilà, par le corps, elle va décider que... elle a le droit de devenir exactement qui elle a envie de devenir. Et si elle veut devenir Marie Curie, elle deviendra Marie Curie. Si elle veut créer une machine à remonter le temps et devenir prix Nobel de physique, elle deviendra prix Nobel de physique. Et son père ne l'en empêchera pas. Et ça parle aussi de ça, des sciences, comment le savoir, la connaissance... est un vecteur d'émancipation aussi.
Oui, parce qu'il y a question de physique quantique, mais c'est vraiment ce qui m'a frappé, c'est cette dimension justement qu'on retrouve totalement chez vous, Nicolas Mathieu, aussi, du corps, même des fluides, du sang.
Ouais.
Il y a la chair, c'est-à-dire à la hyène répond celle qui résiste à la hyène, mais sur le même terrain. C'est-à-dire qu'il y a une carnassière, donc il faut en face une proie, mais cette proie va devenir aussi s'affirmer comme une chasseuse, au fond, mais pour la bonne cause.
Voilà, et ça parle de notre animalité et qui ne s'oppose pas à l'évolution, à la civilisation, à la connaissance, mais effectivement, on est des animaux et elle en est archi consciente et elle accepte complètement son animalité, elle accepte son corps, elle l'aime. Et c'est comme ça qu'elle va accueillir sa sexualité avec beaucoup de décontraction et de plaisir.
Alors, de la chair à l'esprit. On passe à vous, Nicolas Mathieu. En fait, de la chair à l'esprit, non, la chair est très présente, mais c'était une façon d'introduire votre choix musical, puisque vous avez choisi, c'est d'ailleurs ce qui ouvre votre livre, Smells Like Teen Spirit. On en parle peut-être avant, là, pour pourquoi ce choix-là? Nirvana, évidemment.
Souvent, on dit que les années 90, qui est donc la période qui est traitée dans le bouquin, ça commence avec la chute du mur et ça finit avec la chute des tours. dans les années 90. Ça a commencé en 92 en France avec la sortie de Nevermind de Nirvana. Dans mon adolescence, c'est vraiment un marqueur fort.
Et avec un bébé sur la couverture.
Exactement, vous en souvenez, dans une piscine qui nageait après un dollar.
Exactement.
Voilà.
Et sur un hameçon.
Exact. Et j'ai un souvenir très très précis de la première fois où je l'ai entendu. Et c'était l'adolescence a commencé là, dans cette rage et cette déprime-là, quoi. Et c'était un bon marqueur pour lancer l'histoire.
Avec une dimension économique, d'ailleurs, parce que c'était
absolument,
Nirvana,
ouais.
C'était Seattle, c'était les Blancs déshérités, un peu trash, d'ailleurs. White trash avant l'heure.
C'est ça, oui. C'était le grunge. À la sortie de Seattle, il y avait un panneau qui indiquait que le dernier qui sort éteigne la lumière en partant. C'était cet esprit-là, quoi. Les villes pourries, désindustrialisées, à travers le monde entier. Et le grunge a déboulé là-dedans pour faire de la dépression mondiale, pour faire du bruit avec la dépression mondiale, je dirais, voilà. Et c'est la musique qui a bercé notre adolescence. Il y avait ça, il y avait Rage Against the Machine et quelques autres.
On écoute, et puis on retrouve ça évidemment dans cette ville déshéritée qui sert de cadre à votre roman, Leurs enfants après eux. On écoute donc Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux, chez Actes Sud, a choisi comme extrait musical Smells Like Teen Spirit de Nirvana, que nous écoutons. Vous me disiez là que vous écoutiez ça avec votre classe de latin à Rome.
C'est ça.
Je veux en faire profiter vraiment les auditeurs.
J'ai des souvenirs très précis de la première année où on a écouté ça, quoi. C'était donc en 92, et cette année-là, je suis parti avec toute ma classe, avec les latinistes en Italie. Donc ça représente des dizaines d'heures de bus. Et on écoutait ça en buvant de la vodka en cachette au fond du bus. Voilà, ça a été notre adolescence dissipée.
Très très bien. Tous partageaient le même genre de loisirs, un même niveau de salaire, une incertitude identique quant à leur avenir et cette pudeur surtout qui leur interdisait d'évoquer les vrais problèmes, cette vie qui se tricotait presque malgré eux jour après jour dans ce trou perdu qu'ils avaient tous voulu quitter, une existence semblable à celle de leur père, une malédiction lente. Ils ne pouvaient admettre cette maladie congénitale du quotidien. Répliquer, c'est page 389 de Leurs enfants après eux. J'en redis quelques mots, Nicolas Mathieu. On est dans l'est de la France, du côté de cette vallée qu'on appelait la vallée des hommes de fer, la vallée de la Fensch, même si vous ne tenez pas à préciser exactement l'endroit. En tout cas, l'univers totalement paupérisé, les hauts fourneaux se sont éteints, se sont tus, j'ai failli dire. Et le héros de Leurs enfants après eux, à 14 ans, il s'appelle Anthony. Il a la gueule un peu cassée, il grandit lui aussi, comme chez vous, Adeline Dieudonné, puisque nous sommes avec Adeline Dieudonné, l'auteur de La vraie vie chez l'Iconoclaste. Il a un père violent, une mère usée, qui a été belle, qui ne l'est plus. Et un après-midi de canicule, Anthony décide de prendre un canoë avec son cousin, pour aller voir de l'autre côté ce qui se passe du côté d'une plage naturiste, la plage des Cunus, comme ils disent. Et il tombe sur des filles, la fille Durupte et la fille Chaussois. Alors, ils connaissent pas son nom encore. On parlait du nom tout à l'heure avec Adeline Dieudonné, puisque vous n'avez pas voulu donner le nom à être héroïne. Durupte, surtout pour un moment de rupture, pour une rencontre qui appelle déjà la sexualité pour ces gamins de 14 ans, c'est pas mal. Là, il y a un travail sur les noms, Nicolas Mathieu.
Oui, les noms sont significatifs. Dans mon premier bouquin, le personnage principal s'appelait Martel parce qu'il était très percutant et voilà, il faisait du syndicalisme à coups de marteau. De même, Ayange, c'est quoi? C'est pas seulement un nom qui fait penser à Ayange, c'est aussi un enfer et une ville en ange. C'est à la fois leur tombeau et leur paradis, quoi. Et ouais, il y a un travail qui est fait sur les noms, soit pour que ça parle de leur origine sociale ou géographique, soit pour que ça porte du sens, effectivement.
Alors, on croise la route d'un autre adolescent qui s'appelle Hassine, donc 17 ans, voyou par ennui, hein, on va dire. Et puis Steph, la fille des beaux quartiers. Et je disais tout à l'heure, quand Anthony la regarde, il souffrait, c'était bon. C'est elle qu'il rencontre justement après la petite balade en canoë. Vous les suivez, Adeline Dieudonné, suivez ces personnages sur 6 étés, vous les suivez sur 4 étés. Et on va les voir aussi devenir adultes, en tout cas... post-adolescent, dans un univers sinistré. Je vous cite, les siens, ils les trouvaient finalement bien petits par leur taille, leur situation, leurs espoirs, leur malheur même, répandus et conjoncturels. Chez eux, on était licenciés, divorcés, cocus ou cancéreux. Je voulais vous demander, parce que vous parlez de ce premier roman que vous aviez publié, Aux animaux, la guerre, et on retrouve l'animalité dont parlait Adeline Dieudonné. Ça me fait penser à un dénommé Pierre Lemaître qui avait commencé aussi par le polar, par le roman noir. Le polar qui est un genre, d'ailleurs, qui permet très très bien de parler des problèmes sociaux. Je pense à Manchette, je pense que vous devez aimer Jean-Patrick Manchette.
Moi, je suis venu au roman noir par sa faute, oui, carrément.
Par sa grâce, par sa grâce. Pourquoi avoir justement quitté le roman noir? Moi, je me souviens de votre roman qui va être adapté. Je crois qu'on va voir bientôt.
Ouais, on en a fait une série télé qui passera sur France 3 en novembre.
Très bien. Voilà. Donc très bientôt. C'était l'histoire d'une usine qui fermait dans les Vosges. Tout le monde s'en foutait. Et en fait, des types qui avaient rien à perdre kidnappaient une fille sur les trottoirs de Strasbourg pour la vendre en fait. Pourquoi avoir quitté le genre du noir pour aller, je ne vais pas dire dans le genre du blanc, mais quitter cet univers-là? Qu'est-ce que ça a apporté de plus? De quoi vous aviez envie?
Ça s'est fait déjà à mon corps défendant. C'est-à-dire qu'au départ, moi, je suis parti, et c'est un roman d'apprentissage noir, de toute façon. Je suis parti pour écrire un roman noir, et puis, à mesure que l'écriture se déployait, mon obsession de la restitution, de rendre la vie des gens, d'être dans des détails, d'être dans... De parler de leur existence, de décrire cette vallée de fond en comble, c'est-à-dire qu'on part de très bas dans la société et on monte jusqu'au-dessus, et puis il y a une vision très latérale aussi de ce qui s'y passe. Finalement, j'ai accordé de moins en moins de place à ce qui était l'intrigue criminelle, à ce qui était les codes, et c'est devenu autre chose, en fait. Mais moi, je suis pas un planificateur. J'écris et l'écriture fait se déplier devant moi les personnages, l'intrigue et puis mon projet. Et ça devient à mesure que ça se fait. Et j'ai pas décidé de quitter le roman noir. C'est que les codes sont tombés d'eux-mêmes.
Et alors, Adeline Dieudonné, tout à l'heure, vous disiez que vous étiez guidée par une forme d'improvisation théâtrale, hein, c'est ce que vous nous expliquiez.
Oui, oui, bah oui, oui, complètement. Après, c'est guidé, je pense qu'en ça, on se rejoint avec Nicolas par un savoir dramaturgique, c'est-à-dire que je crois qu'on a tous les deux beaucoup lu, on en a parlé, des ouvrages traitant de dramaturgie. Et la dramaturgie répond à des codes qui sont très précis, à des règles qui sont.
Vous avez étudié des manuels de dramaturgie?
Oui, tout à fait.
On a lu Lavandier tous les deux.
On a lu Lavandier tous les deux.
Alors, le titre, c'est quoi? Le titre?
La dramaturgie de Lavandier, voilà. Qui est un peu la Bible.
Voilà, donc ça avis aux auditeurs, voilà. Si vous voulez écrire des romans.
Ouais. Et je crois que ces règles-là, le mieux, c'est de les intégrer, de les digérer, et puis de ne pas y penser au moment d'écrire, mais que par contre, elles soient quand même présentes et qu'elles portent le récit instinctivement. Et l'improvisation théâtrale m'a forcée à ça, à intégrer ces techniques-là et à les connaître, parce que là, on n'a pas droit à l'erreur, on joue en direct, on ne peut pas revenir en arrière, et donc on doit respecter la structure du récit de façon purement instinctive. Et je crois que Nicolas, toi, tu travailles comme ça.
J'avais été très, très frappé par les histoires du cinéma de Scorsese. Et dedans, il parlait notamment d'une catégorie de réalisateurs qu'il appelle les contrebandiers. C'est-à-dire, c'est des types qui vous racontaient une histoire qui embarquait tout le monde, toutes les classes sociales. On est dans les années 50, il y a des centaines de millions de spectateurs dans le monde. Et puis, en contrebande, ils faisaient passer un peu de politique, un peu de sociaux, des idées qu'ils avaient sur le monde, etc. Et c'est ça, quand on tient un fil dramaturgique qui est tendu et qui marche bien, c'est comme une corde à linge sur laquelle on va pouvoir accrocher absolument tout ce qui nous intéresse, nous, mais en contrebande. Et une fois que le lecteur est lancé, qu'il tourne les pages, on fait ce qu'on veut derrière.
Et justement, là où Adeline Dieudonné tout à l'heure parlait de certains mots qui évoquaient, qui ouvraient finalement une porte vers d'autres univers, est-ce que vous ne travaillez pas, Nicolas Mathieu, moi c'est ce qui me frappe dans votre livre, sur une observation géographique, sociale, politique extrêmement précise? C'est pas un hasard d'ailleurs si Ayange, enfin ne s'appelle pas Ayange, tout le monde aura compris, mais vous devez avoir une matière, est-ce que vous avez une matière abondante que vous travaillez? On parlait du réel tout à l'heure, c'est le réel dans tout ça, mais jusqu'aux marques en fait des t-shirts et des baskets. En fait, on reconnaît que quelqu'un n'est pas de la même classe sociale parce qu'il a les nouvelles Nike Air par exemple.
Exactement. Ouais. Alors ça c'est des choses, le petit fait vrai. C'est une grande tradition du roman noir et que j'ai emmené avec moi. Moi, on pourrait dire aussi c'est des choses qu'on trouve dans les choses de Pérec. C'est-à-dire que c'est les détails parlent pour les gens. Et tout ce qu'on donne à voir, ça nous évite de le dire. Et vous savez, justement, on parlait de Bourdieu tout à l'heure.
Parce que je pensais, pourquoi je posais cette question-là, vous m'avez dit non, j'adore Bourdieu, il n'était pas question. Mais c'est surtout qu'en fait, vous, ils arrivent à s'extraire, en fait. C'est-à-dire qu'il y a certes une reproduction sociale peut-être, mais ce n'est pas une malédiction. Même si le mot revient de malédiction, ils y échappent.
C'est-à-dire que moi, je n'ai pas une pensée statistique. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnages et que, comme tous les personnages, ils ont envie d'en croquer, ils veulent leur part, leur part de rêve, leur part de fille, leur part de mec aussi, parce que le désir des filles est beaucoup, beaucoup traité dans ce bouquin. C'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure, comment les affaires MeToo aussi influent notre manière d'écrire ou des choses comme ça. Au départ, moi, je voulais juste raconter l'histoire d'Anthony. Anthony tombe amoureux d'une meuf, voilà, il a 14 ans, il en est fou et ça devait raconter ça devait être le bouquin. Et puis, on est quand même dans un climat où on se dit, est-ce qu'on peut traiter les femmes uniquement à travers le regard du garçon et de son désir? Ben non, c'est pas possible. C'est pas jouable, quoi. Et donc, il y a une éclosion des personnages féminins comme ça qui s'impose à nous, quoi.
Alors, vous parliez de cinéma. D'ailleurs, si les auditeurs, auditrices ont été, les auditrices et auditeurs ont été attentifs, attentives. Vous avez parlé de cadrage, vous avez parlé de focal tout à l'heure. Vous avez étudié le cinéma à Metz. Vous avez d'ailleurs consacré votre mémoire à Terrence Malick. Ce roman, moi, effectivement, il m'a fait penser. Alors, pas seulement à Terrence Malick. Alors, il y a le réel, il y a les odeurs, il y a les couleurs, il y a le climat, les marques. Et c'est vrai qu'on a l'impression que on pourrait faire une étude presque archéologique, en fait. Si on, je sais pas, si le Vésuve, si un haut fourneau se réveillait et recouvrait, on pourrait trouver vraiment une réflexion sur le temps et sur l'époque. Mais ça m'a fait penser aussi, moi, à Cimino, aussi, The Deer Hunt, avec ce côté poisseux des matières, avec ce lac aussi. Et même à Borman, je pensais à Délivrance, pas seulement à cause de l'histoire du canoë, mais la scène justement d'amour interrompu dans la voiture avec ces types là qui regardent, j'ai eu l'impression de me retrouver dans Délivrance. En quoi le cinéma, là, dans la technique, vous parliez de dramaturgie tous les deux, mais en quoi l'outil cinéma, vos connaissances du cinéma ont joué un rôle dans ce livre, dans l'écriture, hein?
Déjà, il y a des points de départ qui sont visuels. C'est-à-dire que le personnage d'Anthony, au départ, c'est une image. C'est un garçon qui un soir d'été, conduit une moto à fond de train dans une vallée, torse nu et sans casque. C'est ça que je vois, avec le risque sans cesse qu'il tombe et qu'il se fasse mal. Et ce personnage, il se construit à partir de ce petit point de départ. Et après, par rapport au cinéma, on dit « action ». Et c'est comme ça que j'essaye de définir les personnages et l'histoire. J'essaye d'en parler le moins possible et de faire exister le plus possible. Et donc, on essaye de raisonner en situation. Tout à l'heure, on parlait de comment écrire une scène de sexe. Une scène de sexe, finalement, c'est pas une question de vocabulaire, de clichés ou de...
Quand même un peu de vocabulaire.
Oui, ouais. Certes, mais comme le reste, c'est une question de personnages et de situations. Si on a les bons personnages et les bonnes situations, le lecteur s'investit tellement, il veut tellement que ça arrive, qu'à la limite, derrière, ça roule, quoi.
Je voudrais qu'on vous entende lire un passage. Alors, j'avais prévu de vous faire lire le passage de la nageuse, en fait, de la mère qui regarde son corps, qui n'est plus le même que quand elle était jeune femme et quand elle était belle. Elle est belle encore, mais elle ne se sent plus belle. Mais je préfère quand même, Nicolas Mathieu, qu'on commence au début, justement, avec cette découverte, ce canoë, parce que je la trouve très, très graphique, très cinématographique, avec ces deux gosses, enfin, plus encore gosses, mais bientôt adultes, et qui sont en canoë et qui découvrent, justement, ces deux filles qui sont sur la plage.
Putain, il n'y a personne, j'ai mis Anthony. En réalité, on voyait quand même deux filles, mais elles portaient leur maillot, même le haut. De loin, c'était difficile de se faire une idée, si elles étaient jolies ou quoi. Qu'est-ce qu'on fait, maintenant qu'on est là? À leur approche, les filles commencèrent à s'agiter. À présent que leurs silhouettes se précisaient, on les devinait très jeunes, mobiles, surtout inquiètes. La plus petite finit par se lever pour appeler en direction du bateau à moteur. Elle siffla entre ses doigts, les pieds dans l'eau, très fort mais sans succès. Du coup, elle regagna vite fait sa serviette et se colla à sa copine. « Elles ont la trouille, fit Anthony. Pas toi ?» Les cousins accostèrent, mirent le canoë au sec, puis s'installèrent près du bord. Comme ils ne savaient plus quoi faire, ils se mirent à fumer des clopes. Ils n'avaient pas échangé un regard avec les occupantes du lieu. Ils sentaient pourtant leur présence derrière eux, leur hostilité sourde, infranchissable. Anthony avait un peu envie de se tirer à présent. En même temps, ça aurait été dommage. Après le mal qu'il s'était donné, il aurait fallu savoir s'y prendre. Après quelques minutes, les filles déménagèrent leurs affaires à l'autre bout de la plage. Elles étaient super bien, en fait, avec des queues de cheval, des jambes et des fesses de filles, des poitrines, tout. Elles se remirent à crier en direction du bateau à moteur. Anthony jetait des petits coups d'œil. Il était emmerdé de les inquiéter comme ça. « C'est la fille du rue, » souffla le cousin. « Laquelle ? La petite avec le maillot blanc. Et l'autre ? Celle-là ?» Le cousin ne la connaissait pas. Pourtant, ne pouvait pas la louper. De la nuque aux chevilles, elle se résumait d'une ligne, précise, lourde, et sa chevelure nouée très haut produisait en retombant une formidable impression de pesanteur. Des ficelles retenaient son maillot sur ses hanches. Ça devait laisser dans sa peau une empreinte bien nette une fois qu'on les avait dénouées. Ses fesses, surtout, étaient pas croyables.
Merci Nicolas Mathieu. Donc leurs enfants après eux, ça paraît chez Actes Sud. Et je rappelle d'ailleurs que vous êtes non seulement en lice pour le Goncourt des lycéens, comme Adeline Dieudonné, mais vous êtes aussi sélectionné pour le prix du roman des étudiants France Culture Télérama. J'avais une dernière question à vous poser. Il y en a plein. Bon, vous décrivez admirablement justement ces corps adolescents, les garçons comme les filles. Il y a quelque chose qui revient parce qu'il y a justement un choc social entre ces garçons qui sont plus pauvres par rapport à cette fille. Il y a quelque chose qui revient, il s'agit aussi d'initiation sentimentale, vous parliez d'éducation sentimentale tout à l'heure, d'initiation sexuelle aussi. Est-ce que le roman, c'est aussi le lieu pour régler un certain nombre de conflits? Souvent revient l'idée de qui a baisé l'autre, en fait, à chaque fois, après la scène d'amour, qui finalement, voilà. Et j'ai vu que vous disiez que l'écriture pour vous était une manière de rendre les coups.
Ouais.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
En tout cas, je ne sais pas si le roman, c'est le lieu de règlement des conflits. Je crois que c'est le lieu où on les met en scène. Mais l'écriture, en tout cas pour moi, j'en ai une vision assez martiale. Et effectivement, c'est une manière de rendre les coups. C'est-à-dire que dans la vie au quotidien, il y a le temps qui passe, les filles qu'on n'aura pas, les frustrations, les humiliations, et puis les choses agréables aussi qui nous arrivent. Et de tout ça, il faut bien faire quelque chose. Et... moi, tout m'irrite, tout me met en colère, tout me blesse. Et l'écriture, c'est pas une manière de régler les choses, jamais. Mais c'est une manière, oui, effectivement, de rendre les coups. Ouais.
Et Adeline Dieudonné, qu'est-ce que vous pensez de cette conception de l'écriture, voilà, rendre les coups? Il y a beaucoup de coups, il y a beaucoup de vie aussi dans la vraie vie.
Alors, de mon côté, je sais pas si je rends les coups. En tout cas, l'écriture me permet de dire qui je suis. Et c'est assez miraculeux. Moi, j'ai commencé à écrire tard et c'est incroyable, cette sensation. Effectivement, c'est un terrain vierge. On fait exactement ce qu'on veut. Et c'est rare dans la vie qu'on puisse s'affirmer, dire exactement qui on est, prendre sa place. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est quelque chose de difficile. Et je prends ma revanche dans l'écriture et c'est extrêmement libérateur.
Voilà, j'aime bien prendre sa place. Voilà, prendre sa place par l'écriture, c'est un beau mot de conclusion. Merci à tous les deux. Merci Adeline Dieudonné.
Merci à vous.
Et merci Nicolas Mathieu.
Merci beaucoup.
Voilà, je rappelle le titre de vos livres. Leurs enfants après eux, donc Nicolas Mathieu, c'est chez Actes Sud. Et Adeline Dieudonné, La vraie vie, premier roman à l'iconoclaste. Longue vie à vous deux et à vos romans. Le temps des écrivains, c'est Anne-Catherine Lochard, Alexandra Longuet à la réalisation, à la technique Stéphane Desmonts. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter pendant 1000 jours sur franceculture.fr. Mais je crois que c'est plus de 1000 jours, c'est l'éternité. 7 heures donc avec Adeline Dieudonné et Nicolas Mathieu.